Salut à toutes et à tous, c'est Manon, vous écoutez 3 en 1 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de déboire ?
L'agriculture est en train de crever, sincèrement, toute production confondue, toute filière.
Je veux dire de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, votre émission d'actualité locale sur Canal B. Il est midi 15 et nous sommes lundi 2 mars, ou mardi si vous nous écoutez en rediffusion. Si c'est le cas, bonne matinée à vous. Et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième de nos 4 émissions spéciales élections municipales. Puisqu'à l'occasion des municipales 2026, tous les lundis jusqu'au deuxième tour, l'équipe explore un sujet de société qui touche les Rennais et Rennaises. Et nous avons fait le choix de ne pas inviter de candidates et candidats à la municipalité, mais des experts ou responsables associatif venant de différents horizons pour répondre au sujet de nos 4 thématiques. Et j'espère d'ailleurs que vous avez pris votre abonnement à la carte électorale. Le 22 février dernier, c'était la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'hiver à Milan Cortina. Et comme après chaque événement sportif, et encore plus lorsque l'événement en question a été une réussite, le nombre de licenciés augmente au sein des clubs. Après les JO 2024, l'INJEP, donc l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, a publié une étude qui établit une hausse de près de 5% des licences sportives sur la rentrée suivante. Et par ailleurs, cette augmentation serait relativement plus rapide parmi les publics habituellement plus éloignés de la pratique sportive licenciée. Vous l'aurez sûrement compris, aujourd'hui nous allons parler pratique du sport en milieu urbain et pour en parler, Julie a reçu Michaël Attali pour l'interview du jour.
Oui, c'est le responsable du Master Développement Intégration Sport et Culture de la filière STAPS de l'Université Rennes 2. Je l'ai interrogé sur l'offre de sport à Rennes pour les licenciés, mais aussi au-delà pour tous ceux qui pratiquent le sport en dehors des clubs. Il nous a aussi parlé des améliorations qui resteraient à faire pour que le sport agisse positivement sur la santé publique et joue son rôle de lien social. Et surtout, nous avons évoqué ce qui pourrait être fait par les municipalités à ce sujet.
Le premier tour des municipales approche rapidement. Parmi les programmes publiés, Julie, que peut-on y retrouver concernant le sport ?
Pour le moment, un seul intègre le sport comme partie intégrante de son programme. Les autres candidats et candidates, eux, n'en font pas une priorité ou n'en parlent pas. Donc visiblement, cette thématique pratique du sport en milieu urbain ne semble pas faire partie des enjeux du prochain mandat de Rennes.
Et tout de suite, on vous propose de partir à Clunet et au Blône pour entendre ce que les Rennais et Rennaises ont à nous dire sur la question de l'accès au sport à Rennes. Nous leur avons également demandé comment la municipalité rennaise pourrait améliorer encore plus cet accès à la pratique du sport.
Oui, c'est de la des plus jeunes enfants aux seniors, c'est important de faire du sport et de se bouger.
C'est des accès à des terrains, des centres d'entraînement, des aires, pas de jeu même pour les enfants, mais des choses comme ça, des petits équipements un peu disséminés dans la ville qui permettent à chacun de pratiquer.
Oui, étant donné que j'ai 3 enfants, donc c'est important pour moi. Aires de jeu, je trouve qu'il y en a pas mal quand même sur Rennes. Il y en a toujours qui ouvrent, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient ouvert là.
Ça fait un an que j'habite sur Rennes. Moi, je me suis inscrite en salle de sport directement. J'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs quand même dans les quartiers pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer et aussi pas mal d'équipements calisthénie, ce qui est plutôt cool d'y avoir accès gratuitement. Au niveau des piscines, c'est génial, on en a plein.
Je trouve que le sport à Rennes, il peut être accessible, surtout pour les personnes comme moi qui ont la carte sortir, parce que ça permet quand même d'avoir des tarifs pour pouvoir pratiquer un sport. Moi, personnellement, je fais de la danse et du volley. Le volley, c'est super, mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde, malheureusement. Et en extérieur, il manque de terrain, de volley qui soit en bon état, parce que à Plaine de Vaux, il y en a un petit peu, mais c'est pas non plus des états incroyables. Et pour ce qui est de l'accessibilité du sport extérieur, malheureusement, c'est principalement des trucs de muscu ou de foot qui sont pas vraiment pour les femmes. Ça manque un peu d'accessibilité pour les filles, les femmes en extérieur.
Je trouve qu'ici, en tout cas, au Blône, on a énormément d'associations sportives avec des tarifs hyper préférentiels. Les élèves, ils peuvent avoir des licences dans des clubs de sport à 3,50€ l'année. On a des city-stades, des infrastructures sportives qui ont l'air vraiment très accessibles.
C'était 6AM de Carnage Picnic sur Canal V. Et on retrouve maintenant Julie pour l'interview du jour avec Michaël Attali, responsable du master DISC au sein de l'université Rennes 2.
En amont des municipales, 3 en 1 vous prépare une série d'émissions spéciales qui se concentrent sur un enjeu de la vie à Rennes. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui nous nous intéressons à l'accès au sport en milieu urbain. Si dans l'ensemble, les Rennaises et les Rennais semblent satisfaits des infrastructures mises en place dans la ville, la pratique du sport reste clivée. Alors que le sport est un enjeu de lien social et de santé publique, dans cette deuxième édition spéciale, nous nous intéressons à l'offre de sport à Rennes et aux évolutions que la municipalité peut mettre en place vis-à-vis de son accès. Aujourd'hui, pour répondre à nos questions, nous recevons Michaël Attali, le responsable du Master Développement Intégration Sport et Culture de la filière STAPS de l'Université Rennes 2. Michaël Attali, bonjour.
Bonjour.
Donc, dans un des témoignages, on a entendu certaines préoccupations d'une mère concernant l'accès au sport pour ses enfants. La ville de Rennes, elle compte 350 clubs et 60 000 licenciés pour moins de 230 000 habitants en 2026. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une proportion qui est haute ?
Alors, c'est une proportion qui est plus que significative puisqu'elle est au-dessus de la moyenne nationale, donc ce qui est un indicateur plutôt positif. Après, les licenciés, ça ne réunit pas tous les pratiquants. On l'a vu dans le micro-trottoir, on parle de jeux, de sport, d'activité physique, de calisthénie. Bref, on parle de beaucoup de choses quand on veut parler de sport. Et en fait, ça renvoie à des réalités qui sont très, très diversifiées. Et encore une fois, le nombre de licenciés est loin de réunir l'ensemble des pratiquants sur une zone urbaine comme la ville de Rennes.
Là, on a entendu une mère de famille, mais il y avait aussi un homme d'une cinquantaine d'années. Il y avait une étudiante et il y avait aussi deux femmes qui travaillent dans des écoles. Et en tant que professeur des universités, spécialisé notamment sur le lien entre société et sport, comment décrirez-vous la ville de Rennes en termes d'accès au sport et qu'est-ce qui manque selon vous ?
Alors, c'est une ville dont l'accès au sport est lui aussi très largement au-dessus de la moyenne, puisque de gros efforts ont été faits par la municipalité et par les équipes en charge des sports depuis une bonne quinzaine d'années. On le voit, et d'ailleurs ça a été souligné dans le micro-trottoir, les piscines qui sont très structurantes de l'environnement urbain. Il faut quand même savoir qu'à Rennes, on a la 5e plus belle piscine du monde, la piscine Saint-Georges, puisque c'est un classement international qui est sorti il y a 2 ans. Mais on a d'autres piscines, évidemment, les Gailleul, Bréquigny, la nouvelle piscine de Vigian qui va s'ouvrir, je crois, au printemps prochain ou à l'été prochain. Il reste que potentiellement, peut-être faudrait-il encore une ou deux piscines pour couvrir réellement et véritablement l'ensemble de territoire. Donc voilà, une densification de l'équipement urbain qui est plus que significatif. Après, on le voit, piscine, stade, gymnase, c'est des équipements qui sont très traditionnels. Alors que depuis une vingtaine d'années, le sport s'est très largement diversifié. Et ce qu'on peut regretter, c'est que les sports qui ont le vent en poupe, je pense à l'escalade, je pense au futsal, mais je pense à plein d'autres sports en fait, qui sont peut-être moins visibles, sont des sports qui sont pratiqués la plupart du temps dans des environnements liés à des salles privées, donc avec des coûts beaucoup plus conséquent que les clubs sportifs municipaux. Donc je pense qu'il y aurait peut-être une vraie réflexion à mener sur les équipements de demain, mais je crois qu'il faudrait s'attaquer vraiment sérieusement à cet aspect-là, parce que là, pour le coup, on risque de perdre un certain nombre de pratiquants et de personnes qui sont motivées par cette nouvelle vogue de nouveaux sports, parce qu'encore une fois, les prix sont pour dans certains cas très très élevés. Donc voilà, je pense qu'une ouverture vers la modernité sportive s'avère probablement nécessaire pour les prochaines années.
Et est-ce que vous avez une idée de pourquoi les gens se dirigent peut-être de plus en plus vers des infrastructures privée ?
Alors parce que il y a très peu d'infrastructures publiques de qualité. Si je prends encore une fois l'exemple de l'escalade, sur le terrain rennais, il y a quelques clubs, je pense au club de vol, qui propose une offre en soirée pour les enfants et pour les jeunes adultes, mais ça reste limité en nombre parce que le mur d'escalade est plutôt petit en fait quand on compare à d'autres murs d'escalade en France métropolitaine. Donc peut-être une réflexion autour de la construction d'un mur d'escalade vraiment ambitieux, comme on a par exemple en périphérie de Nantes ou ailleurs, serait peut-être pertinent. Je pense au mur d'escalade qui a été construit il n'y a pas très longtemps au centre de la ville de Briançon, qui est quasiment devenu un lieu de regroupement social. La ville de Briançon a beaucoup travaillé sur le style mais de ce mur-là, donc ça devient un repère urbain, et peut-être ce type de réflexion serait-il utile en fait.
Selon les résultats d'une étude publiée par le ministère de l'Éducation nationale le 2 février dernier, sur 267 000 élèves de 6e testés, plus de 130 000, soit la moitié, sont incapables de courir plus de 5 minutes à 9,5 km/h minimum. Il y a donc à la fois beaucoup de licenciés dans les clubs, comme on l'a évoqué avant, mais aussi des statistiques inquiétantes concernant les préadolescents aujourd'hui. Est-ce que vous sauriez expliquer cette contradiction ?
Alors effectivement, c'est une vraie question, une question qui est complexe, hein, à vrai dire. Alors préadolescent et adolescent, je vais essayer de l'expliquer assez brièvement. Je disais que c'est une question qui est complexe parce qu'évidemment, elle touche à l'intérêt qui est porté au sport, certes, mais au mode de vie aujourd'hui. Alors on parle beaucoup des écrans, mais il n'y a pas que les écrans en fait. On est devenu une société qui bouge de moins en moins parce que tout est à proximité, parce qu'avec un double clic, on peut commander tout et n'importe quoi sur beaucoup de plateformes. Donc effectivement, le mouvement chez les préadolescents et adolescents et peut-être pas la priorité. L'autre raison, me semble-t-il, c'est peut-être qu'on offre une pratique qui est très homogène à toute la population sans se préoccuper des intérêts et des motivations des uns et des autres. Il y a une cinquantaine d'années, quand on faisait des enquêtes, on constatait que la plupart des adolescents et adolescentes étaient motivés par la production d'une performance. Aujourd'hui, il y a les passionnés de performance, mais il y a ceux qui sont attentifs à leur bien-être, à l'entretien de soi, à rencontrer des gens, des partenaires, rigoler, discuter, faire la fête. Bref, c'est pour ça que tout à l'heure on entendait loisirs, jeux, calisthénie, sport. Les modes de pratique en fait sont très très diversifiés. Et face à cette hyper diversification, en fait on offre un truc qui est homogène. Donc forcément on perd du monde en route. Et peut-être réinventer d'autres modalités d'intervention auprès de cette jeunesse. Parce que comme vous le disiez, il y a un vrai enjeu de santé publique. Mais pas que. Il y a aussi un vrai enjeu de lien social. Parce que le sport c'est aussi du lien social. C'est pas que ça, mais c'est ça aussi. Et ce dossier est important. Et je crois, enfin moi je suis convaincu que tout doit passer par l'éducation en fait. C'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas pratiquant sportif, on ne s'improvise pas sportive et sportif. On le devient parce qu'on a été initié de manière très qualitative, dans le temps, dans la durée, par des personnes qui sont compétentes. Et lorsqu'on n'a plus d'encadrement, encore une fois, lorsqu'on sort du collège ou du lycée, si on a pris goût, si on a une bonne estime de soi, si on a développé des compétences, on va continuer en fait. On va continuer d'ailleurs de manière autonome, hein, pas que forcément en étant encadré, parce que ça aussi on n'en a pas parlé, mais c'est un vrai phénomène de société depuis une vingtaine d'années. Il y a qu'à voir aller se balader sur les bords de Vilaine ou dans le parc des Gailleuls, le nombre de gens qui courent, qui trottinent, qui font du vélo, c'est aussi ça l'activité physique, et ils sont tout seuls, ils sont pas encadrés, mais parce qu'ils ont développé des compétences par ailleurs, ils sont en capacité de s'impliquer sur le temps long tout au long de leur existence. Et ça c'est un vrai sujet, et d'ailleurs là aussi les enquêtes le montrent assez bien, hein. Celles et ceux qui font ça, c'est des gens qui sont issus des catégories sociales moyennes et élevées, les fameuses CSP, CSP+++, on pourrait rajouter plein de plus, parce que justement ils ont suivi des formations, des encadrements qui les ont initiés, je le disais, et qui leur ont permis, à l'issue de cette formation et lors de leur entrée dans la vie active, de continuer à pratiquer une activité qui est significative. Donc là, il y a aussi un vrai souci, une vraie projection éducative qui doit s'établir, qui doit être portée par les élus, mais ils le font déjà, mais peut-être faut-il qu'ils le fassent encore davantage et de manière beaucoup plus élargie.
Cross my mind, it feels like heaven.
match de Bar Italia. Vous êtes toujours sur Canal B, toujours dans 3 en 1, pour la deuxième des 4 émissions spéciales municipales sur la thématique du sport. Et on retourne en plateau avec Mickaël Attali au micro de Julie pour nous parler des enjeux du sport à Rennes dans le cadre des municipales.
Et on l'a évoqué un peu avant, mais le sport, du coup, c'est un vecteur de lien social. Mais les pratiques, elles restent quand même assez clivées. Les femmes et les hommes n'investissent pas les mêmes espaces. Qu'est-ce que, selon vous, la municipalité ou les pouvoirs publics pourraient mettre en place pour améliorer ça?
Alors, il y a plusieurs expérimentations qui ont été mises en place à travers le territoire, pas que sur Rennes. Hein. Alors, il y a des espaces séparés qui ont été mis en place. Moi, j'y crois pas du tout, ou très peu, parce que si le sport, c'est du lien social et du vivre ensemble, ça paraît assez contradictoire de considérer qu'il faut des créneaux de piscine pour les hommes et puis derrière des créneaux de piscine pour les femmes. Autant se connaître, apprendre à se connaître et à se respecter en étant ensemble. Donc, je suis pas convaincu que ça soit la solution de demain et d'après-demain. Par contre, effectivement, il faut créer les conditions pour que l'espace public, mais tous les espaces publics, pas que les espaces sportifs, soient en capacité d'accueillir les individus en fonction de leur intérêt, de leur sensibilité, de leur forme d'engagement. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'indispensable diversification de l'offre de pratique. C'est-à-dire, quand on va dans une piscine, il ne faut pas se limiter à proposer des créneaux pour nager 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes et sur des distances allant de 2 km à 5 km. Il faut proposer peut-être des espaces de jeu, des espaces d'aquatonique, mais ce principe de diversification pour répondre à des besoins et à des centres d'intérêt qui sont pluriels me semble être une voie d'avenir assez porteuse.
Et donc, lors des micro-trottoirs à Clunet et au Blône, l'une des personnes, elle a parlé des prix très bas des licences, notamment grâce à la carte sortir. Donc, l'accès au sport, il semble plus simple financièrement, mais pourtant, il y a certains clubs qui refusent du monde par manque de place. Est-ce que vous saurez expliquer ça?
Alors, effectivement, parce que je pense qu'il faut être plus nuancé, certaines licences sportives sont très accessibles et c'est évidemment très bien. Moi, j'en appelle à tendre vers le 0 €, hein, ce serait dans un monde idéal. C'est bien que c'est beaucoup plus compliqué dans la période dans laquelle on est, évidemment. Donc, certaines sont à des prix très bas, pas toutes, hein, il faut être très clair. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez pratiquer de l'athlétisme dans un club, il faut prendre une licence qui vous revient environ une grosse centaine d'euros, parfois pas loin des 200 € par an. Donc, c'est quand même pas très gratuit, en fait, c'est pas très accessible au plus grand nombre. Alors, sur le fait que les clubs aient des difficultés à accueillir tout le monde, c'est la plupart du temps lié à minima à deux choses. La première, à des équipements sportifs qui sont pas extensibles, à des créneaux horaires qui sont réduits dans la journée, parce qu'une même installation sportive, elle sert aux écoles primaires, au collège et au lycée, en général entre 8h et midi et 14h et 17h. Elle sert à l'UNSS, le sport scolaire à la périphérie de l'éducation physique, mais elle sert aussi au club, en général de 17h à 22h, mais la plupart du temps. Donc on voit que les créneaux sont pas extensibles. Alors peut-être faudrait-il faire comme les salles privées et les ouvrir à la nuit, mais ce qui occasionnerait aussi des coûts assez conséquents, parce qu'il faut des gardiens, il faut des gens qui ouvrent les salles, qui vérifient que tout se passe bien, etc. Donc en fait, on en parlait en début d'entretien, la solution ce serait aussi de réfléchir à faire émerger de nouveaux équipements sportifs, mais ça coûte très très cher. On parlait des piscines, c'est un coût qui est exorbitant, c'est un effort énormissime pour la collectivité que de construire une piscine, parce qu'en plus derrière il faut l'entretenir. Donc je disais, voilà, le premier problème c'est les équipements, le deuxième problème c'est les encadrants, les éducateurs. Hein. Alors, effectivement, on peut recruter des animateurs qui sont pas vraiment formés, mais là en fait c'est juste une logique d'occupation. On accueille et puis les gens font ce qu'ils veulent. Si on a une vraie ambition éducative, il faut recruter plutôt des éducateurs formés sur une longue durée, qui ont passé des diplômes, hein. Et donc là ça coûte aussi un petit peu plus cher, il en faut beaucoup, et donc ça montre aussi que on est face à une vraie difficulté financière. Et je l'évoquais, encore faudrait-il trouver de nouvelles marges, parce que les financements publics aujourd'hui ne peuvent pas tout, on le voit bien, hein, une crise financière qui est considérable, qui risque de s'aggraver dans les prochaines années. Et donc, il faut trouver d'autres marges financières pour offrir ou pour continuer à offrir aux Rennais et aux Rennaises des pratiques de qualité et une offre de qualité ouverte au plus grand nombre. Il est déplorable de constater que finalement, l'accès au sport dépend aussi de votre position dans l'échelle socio-professionnelle.
Justement, là, par rapport à ces difficultés financières, la plupart des infrastructures sportives, elles sont issues d'associations. Aujourd'hui, c'est la mairie qui va subventionner beaucoup ces associations, mais est-ce qu'aujourd'hui, ces clubs, ils peuvent recevoir d'autres sources de financement ?
Alors, la plupart du temps, les clubs sont liés à des fédérations. les fédérations ont une mission de service public, on l'oublie trop souvent, hein, et ce depuis très longtemps, depuis un décret, enfin une ordonnance plutôt, qui date de 1945. Donc faites le calcul, ça fait plus de 80 ans que les fédérations sportives ont une délégation de service public. En gros, ça veut dire qu'elles doivent faire œuvre d'accueil, de diversité, d'éducation, on en parlait, etc., etc. Certaines fédérations sont très proactives dans ce domaine-là, je pense au handball, je pense à l'athlétisme, je pense à la natation, d'autres le sont un petit peu moins, on va pas citer de nom, mais voilà, d'autres le font quand même beaucoup moins. Donc peut-être là aussi, faudrait-il rappeler leurs responsabilités à toutes les fédérations et donc à tous les clubs qui sont sur le territoire rennais, évidemment. Donc ça, c'est le premier volet. Le fait de les subventionner davantage, pourquoi pas, mais ça ne va pas régler tous les problèmes. Je disais, il y a plusieurs pistes, je peux donner un exemple parmi d'autres. Hein. Beaucoup d'entreprises, au moment des fêtes de Noël, donnent un chèque cadeau à leurs employés qui peut monter 100, 150 euros, 200 euros, 300 euros, parfois même plus, hein, ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise. Pourquoi ne pourrait-on pas imaginer un partenariat entre la ville et les entreprises qui sont sur le bassin rennais, qui conduirait à ce que les entreprises donnent à leurs employés un chèque sport, en fait, qui leur permettrait d'accéder à certains équipements, voire même d'adhérer à certains clubs. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, on a un nombre de clubs qui est assez dingue sur la métropole. Ces clubs, il faut les faire vivre, il faut les aider, et ça pourrait être une piste de nouveau financement ou de financement alternatif qui pourrait être un vrai ballon d'oxygène pour ces structures-là. Plein d'autres exemples possibles, mais voilà, il faut se réunir autour d'une table, il faut réfléchir sérieusement et développer une vraie politique publique autour de l'accessibilité, parce que là, on est vraiment sur la problématique de l'accessibilité, la problématique qu'on connaît dans d'autres domaines, dans le domaine de la culture, dans plein d'autres domaines. Hein. Et le sport est aussi confronté aujourd'hui à cette question-là. On peut dire aujourd'hui que le sport est à un tournant de son histoire, en fait. Je crois que la ville de Rennes peut jouer un rôle moteur, puisqu'on le disait au début de l'entretien. Hein. Ça fait partie de ces villes assez leaders sur les territoires métropolitains en matière d'intérêt porté au sport.
Et est-ce qu'il existe un autre moyen que financier pour soutenir ces infrastructures et ces clubs ?
L'engagement dans le club dépend de la sensibilité créée chez les plus jeunes autour du sport. La question de l'éducation, si l'éducation est menée de manière très qualitative, le jeune enfant devenu adolescent rentrant dans l'âge adulte, lorsqu'il n'aura plus accès à l'éducation physique qui s'arrête après la classe de terminale, il aura envie de continuer, et s'il a envie de continuer, il tapera à la porte des clubs, et les clubs seront peut-être en capacité de l'accueillir, et donc son histoire sportive se perpétuera dans le temps, tout au long de sa vie, en espérant jusqu'à la fin de sa retraite. Il y a un autre aspect aussi qu'on a aussi évoqué, le club, c'est très bien, c'est fondamental, ça joue un rôle d'accélérateur sportif assez formidable, et il ne faut pas les négliger, il faut les aider, il faut les soutenir, mais il ne faut pas oublier que ce phénomène de pratique libre, de pratique autonome, enfin on peut l'appeler mais comme on veut, des gens qui prennent leur basket et qui vont courir une heure, souvent ils vont courir mais tout seuls, ils ne sont pas encadrés, parfois ils se blessent, parfois ils se font mal, parfois ils ont des crises cardiaques, hein. Enfin voilà, ils ont des accidents assez sévères, parce qu'en fait ils n'ont pas d'encadrement dans le temps, donc peut-être aussi faudrait-il imaginer des structures un peu hybrides, en fait, entre le club et la liberté, des zones de rencontre, des plateformes collaboratives, pourquoi pas, hein, sur lesquelles les pratiquants autonomes, parce qu'il y en a certains, ils n'ont pas envie d'aller courir avec des potes, ils ont envie d'être seuls, de réfléchir, mais de penser, de s'évader, mais peut-être qu'à certains moments, ils auraient besoin de conseils, de pratiques, d'entraînement, combien de fois par semaine, quelle durée, pourquoi, comment, en hiver, en été, au printemps, mais qu'est-ce que je fais, je ne vais pas exactement la même chose, il y a des travaux, mais ces travaux, il faudrait peut-être les rendre un petit peu plus accessibles, parce que qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? On constate que finalement, pour ces pratiquants-là, le seul suivi possible, c'est leur montre, qui propose des plans d'entraînement standardisés, la plupart du temps générés par intelligence artificielle. Donc, en termes d'individualisation, on a déjà fait mieux, parce que l'intelligence artificielle, elle ne connaît pas trop les gens, en fait, donc elle standardise, et du coup, ça aboutit à ce que je disais, parfois des accidents assez sévères. Hein. Donc là aussi, réfléchir, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, à des plateformes un petit peu hybrides qui permettraient d'accueillir les gens quand ils en ont envie, quand ils le souhaitent, et les accompagner de la meilleure des façons possibles.
Et donc, si les infrastructures, donc les city stades, les outils de calisthénie et musculation, par exemple, semblent très accessibles en extérieur, comme au Blône, ça ne semble pas être le cas pour celles en intérieur. Il y a un plaidoyer de la Fédération sportive et gymnique du travail, qui a d'ailleurs été publié en janvier 2026 dans le cadre des élections municipales. Et parmi les propositions, on trouve la volonté de favoriser la mise à disposition gratuite des infrastructures municipales, comme les salles polyvalentes ou les gymnases, aux associations et clubs sportifs. Est-ce que, pour vous, c'est un objectif qui est réalisable et dans quelle mesure il pourrait servir ?
Alors, sur le principe, c'est très bien. Je connais très bien le plaidoyer de la FSGT. Hein. J'ai été longtemps en contact avec son ancienne présidente, Emmanuelle Bonnet-Houlage. Et d'ailleurs, ça faisait partie des idées que je lui avais proposées. Mais voilà, l'ouverture des équipements, c'est très bien. Mais pour y faire quoi, en fait ? Et on en revient toujours à la question de l'encadrement. C'est-à-dire que si ces équipements sont ouverts au plus grand nombre, mais que finalement, ils ne sont pas accueillis, il tâtonne, voilà, il y a un mur d'escalade, tant bien que mal, il s'équipe, il se sécurise, mais il y en a un qui tombe, bah, il ne va pas continuer à faire de l'escalade le lendemain, en fait. Hein. Les gens ne sont pas fous. On sait que l'entrée dans la pratique, c'est une période qui est très stratégique, en fait. Parce que ce n'est pas le moment où on prend le plus de plaisir. Hein. Quand on débute, encore une fois, l'escalade, la course à pied, la natation ou d'autres sports, au début, on a mal aux bras, on a mal aux jambes, on est essoufflé. Le soir, on dort pas super bien parce qu'on a des courbatures un peu de tous les côtés. Donc c'est là où c'est le moment où il faut être encadré. Donc l'ouverture des espaces publics sportifs sur des plages très très étendues, oui, mais à condition que ça soit accompagné. Mais on pourrait aussi peut-être discuter des conditions d'installation des salles privées. Hein. Et peut-être que la mairie et l'équipe municipale pourraient, dans les prochains mois ou dans les prochaines années, lorsqu'elles signent une autorisation d'installation d'un club sportif privé, ben, négocier avec lui, faire un deal. Hein. Ok, on vous donne cette autorisation à condition que vous vous assuriez que vos équipements puissent être accessibles à une diversité de personnes, à des coûts qui soient raisonnables. Gratuitement, pour une salle privée, c'est compliqué, mais des coûts raisonnables, je disais tout à l'heure, quand on voit que pour certaines, on peut dépasser les 1000 euros par an, enfin, c'est quand même assez délirant. Quoi.
Et donc, bah, on parlait de la municipalité, justement, et dans les programmes qui ont été publiés, il n'y en a qu'un seul qui évoque le sport. Est-ce que ça vous étonne ?
Ça paraît absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sport, et là aussi on a plein d'enquêtes qui le montrent très bien, est probablement la pratique sociale la plus présente dans notre milieu, dans notre vie en fait. Il n'y a qu'à voir comment on s'habille, hein. La mode sportswear, c'est quand même quelque chose. Il n'y a qu'à voir le succès des compétitions sportives internationales. Ça fait des millions de téléspectateurs tous les jours. Il n'y a qu'à se balader, je le disais tout à l'heure, sur les bords de Vilaine, sur les bords de Lille, mais n'importe où ailleurs, sur les bords de la côte nord pour voir le nombre de randonneurs qui s'exercent et qui pratiquent. Bon bref, je pense que je ne prends pas trop de risques en disant qu'il n'y a quasiment personne qui n'est pas concerné d'une manière ou d'une autre par l'activité physique et sportive en fait. Et donc que des gens qui se présentent à la municipalité ne donnent pas une place au sport dans leur programme, c'est passer à côté de quelque chose qui est juste essentiel à la vie des Rennais et des Rennaises. En fait.
Donc pour vous, ce serait quoi la priorité sur cette thématique de l'accès au sport à Rennes ?
Vous l'avez dit en fait, la priorité ce serait faciliter l'accessibilité et la diversification des pratiques en fait.
Très bien, Mickaël Attali, je me rappelle, vous êtes responsable du Master Développement Intégration Sport et Culture de la filière STAPS à l'Université Rennes 2. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Merci à Mickaël Attali d'avoir répondu aux questions de Julie au micro de 3 en 1. Et merci aux Rennais et Rennaises qui ont répondu à nos questions dans les quartiers de Clenay et du Blône. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Et on se retrouve mercredi à 12h15 ou en podcast sur le site canalb.fr. Bon après-midi.